proposé par les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Elles font le marché.
Nous sommes à 2600 euros, une fois.
Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Commissaire-priseur, claire, galeriste, marchande, conseil, transporteuse, experte. Quels sont leurs parcours et leurs vocations? Comment se font-elles un nom? Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise? Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ses métiers, autrefois pour certains la chasse-gardée des hommes?
2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006.
Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
Adjugé 2006, monsieur.
Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour introduire ce cinquième épisode d'Elles font le marché, qui ne manque pas d'originalité et d'émotion. Un épisode qui s'attache à mettre en lumière trois belles ventes de ce printemps, alors même que la période est particulièrement riche en enchères spectaculaires ou en ventes pleines de promesses. La crise ne semble pas avoir freiné les enchérisseurs et les découvertes. Le marché vibre et frissonne et plusieurs de ces ventes sont portées, inspirées ou adjugées par des femmes.
Oui Julie, les ventes live n'ont pas refroidi le feu des enchères, bien au contraire. Comme nous avons pu l'analyser dans les deux épisodes précédents consacrés à la digitalisation du marché de l'art, les enchères dématérialisées ont enflammé les ordinateurs et les téléphones du monde entier. En témoigne récemment la vente du 25 mars dernier chez Sotheby's Paris d'un tableau inédit de Van Gogh. Un des derniers, encore en main privée, un vrai trésor représentant une scène de rue de Montmartre qui était estimé entre 5 et 8 millions d'euros. Découvert par la maison Mirabeau-Mercier, la vente s'organise en coopération avec Sotheby's sous le marteau d'Aurélie Van de Voorde et celui-ci tombe une première fois. Et tu as enregistré ce moment clé, on écoute.
Last chance, and I'm selling, je vends ce tableau exceptionnel à 13 050 000 euros. C'est bien vu, last chance. Adjugé, on the hammer, sorry, 14 million euros with an online bidder.
Yeah, the guy came in. At 14 million.
Just on time, at 14 million euros. À 14 millions d'euros, nous sommes. C'est contre vous, Sam.
I know.
À 14 millions, nous sommes. You stop here, Sam. Thanks so much for your bid. And now, so we stay at 14 million euros on the internet. Et nous allons adjuger à 14 millions d'euros. Est-ce que c'est bien vu à Londres, à Hong Kong, New York et Paris? À 14 millions d'euros, je vais vendre 14 million euros. I'm selling. Et je vends à 14 millions d'euros. Adjugé au paddle numéro 73.
On entend le tableau adjugé une première fois à 13 millions 50 000 euros, mais une enchère supérieure tombe sur le dernier coup de marteau à 14 millions d'euros. Elle provient d'un enchérisseur en ligne, alors que la bataille se jouait depuis plusieurs minutes entre deux enchérisseurs au téléphone. Surprise générale. La commissaire-priseur prononce donc le mot adjugé une deuxième fois à 14 millions. Mais quelques minutes plus tard, cette enchère est invalidée. Le tableau est remis en vente à la fin de la vacation et sera finalement adjugé moins cher à 11 250 000 euros prix marteau. Qu'est-ce que cela nous enseigne, Céline? Que les pratiques du marché doivent encore s'adapter?
Sotheby's n'a pas encore souhaité communiquer sur le détail de ces rebondissements, mais en effet, de manière générale, cela montre que si les ventes en ligne cartonnent, notamment depuis la pandémie, et que le marché devient de plus en plus performant, les maisons de vente, certes, s'adaptent bien, mais même un leader de la taille de Sotheby's peut se faire surprendre. Une chose est sûre, l'univers des enchères devra, dans les mois et les années à venir, gagner en agilité.
Aujourd'hui, nous consacrons notre épisode à quatre ventes d'exception liées à trois femmes au parcours inspirant. Deux ventes exceptionnelles chez Millon dévoilent 40 ans de création de Chantal Thomas. La papesse des deux sous-chics que j'ai rencontrée chez elle est une figure de l'émancipation de la femme à la personnalité forte qui revient avec émotion sur sa carrière. Elle souhaite aujourd'hui que sa mode soit montrée et transmise à la jeune génération.
Tu as aussi eu la chance d'avoir un tête-à-tête privilégié avec un Picasso qui sera vendu le 13 mai chez Bonhams à New York.
Et oui, et cette fois, c'est Catherine Yesch, commissaire-priseur et directrice France de Bonhams, qui me raconte l'histoire de cette peinture. Un chef-d'œuvre comme elle en a vu tant durant ses 30 ans de carrière, mais dont elle ne se lasse jamais. Un parcours exemplaire qui, à force de persévérance, de passion et de travail, lui a fait gagner sa place auprès des hommes dans le haut du marché.
Enfin, on entend la voix de Philomène Wolff, qui vient de remporter un record mondial pour un fabuleux dessin de Bernin, mis en vente le 20 mars dernier. Interview exclusive à ton micro, puisque c'est la première fois que la jeune commissaire-priseur de la maison de vente Actéon Compiègne raconte son émotion au marteau et revient sur son parcours qui fait déjà référence dans le métier.
Alors Céline, c'est parti pour en découvrir plus sur ces trois femmes inspirantes. J'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce cinquième épisode.
Cette vie de commissaire-priseur est une vie remplie de curiosité et qui nous amène chaque jour à avancer, à faire des découvertes comme celle-ci et puis à battre des records d'enchères.
C'est la magie de ce métier.
C'est la magie de ce métier, tout à fait.
C'est vrai qu'il y a eu pendant pas mal d'années, c'était un milieu d'hommes, mais aujourd'hui, et dans le monde de l'art, les femmes ont un rôle important, ont une vue, une connaissance et sont reconnues.
Oui, j'ai envie de montrer ce que j'ai fait. Je rencontre quelqu'un, on me dit « Oh, la lingerie !» Bah oui, la lingerie, d'accord. Mais j'ai pas fait que ça dans la vie, dans ma vie.
Femme au béret mauve, datée de 1937. C'est une petite œuvre que Picasso a gardée chez lui jusqu'à sa mort. Depuis 1984, elle est en main privée aux États-Unis et n'a jamais été montrée. Cheveux blonds, visage maquillé, couleur vibrante, par endroits transparentes, ce portrait par Picasso sera vendu le 13 mai prochain chez Bonhams New York. Catherine Yesch, commissaire-priseur chez Bonhams France, nous en détaille ses qualités.
C'est un portrait de Marie-Thérèse Walter, qui était une des muses de Picasso, un petit bijou. Il rencontre Marie-Thérèse en 1927, elle a 17 ans, elle ne connaît même pas Picasso, elle se promène aux Galeries Lafayette et il l'aborde en sortant du métro et en disant « Vous avez un visage intéressant, on va faire un bout de parcours ensemble ». Il est toujours marié à Olga et ce tableau a été fait en 1937, donc 10 ans après. C'est vraiment un portrait resserré sur elle. Il n'y a qu'elle. Mais on est focalisé avec des couleurs très fortes et en même temps une grande douceur. Il va rencontrer en 1936 Dora Maar, qui est quand même aussi une de ses muses. En 1937, il va peindre Guernica. Donc c'est assez amusant cette période 36-37 qui est quand même très très dense dans la vie de Picasso. Donc on est dans des années phares et c'est ce qui apporte aussi de la valeur à ce tableau. Il est estimé entre 10 et 15 millions de dollars. C'est Molly Ott-Hamler qui est notre spécialiste en art impressionniste et moderne, donc qui est basée à New York, qui nous a rejoint il y a 2 ans, qui est une forte personnalité, très reconnue, qui a des connaissances incroyable dans cette période, qui fait beaucoup de conférences sur les femmes dans le marché de l'art. Elle a envie de faire connaître les femmes qui évoluent dans ce secteur et aussi de montrer que c'est un secteur qui est ouvert à tout le monde et que les femmes ont une personnalité importante et peuvent avoir un rôle important dans toutes les maisons de vente, dans les galeries.
Trentenaire discrète et passionnée, Philomène Wolff de la maison de vente aux enchères Actéon pourrait faire partie de ces femmes talentueuses dont parle Molly Ott-Hamler dans ses conférences. Découvreuse de 2 œuvres majeures qui ont défrayé la chronique, elle m'a reçue dans sa salle des ventes de Compiègne pour me parler de cet instinct qui lui a permis de mettre au jour en 2019 un fragile panneau de bois du primitif italien Cimabue, adjugé au marteau un peu plus de 19 millions d'euros par son associé Dominique Le Coent. « La vente de l'année », s'est exclamée la presse. Et il y a tout juste un mois, le 20 mars 2021, c'est elle qui tenait le marteau pour un dessin du grand sculpteur et architecte italien Le Bernin. Cette fois encore, l'œuvre bat tous les records. Comme pour le Cimabue, Philomène Wolff l'a découverte au mur d'une maison de Compiègne.
C'était dans une collection particulière de Compiègne, et c'est au cours d'un inventaire par pur hasard que donc, la personne en question m'a montré ce dessin. Et malgré le cartel qui montrait une attribution à Pierre Puget. Nous, on sait très bien en tant que commissaire-priseur qu'il faut se méfier des choses que l'on voit comme ça écrites et que ça mérite toujours des recherches plus approfondies. Un bon instinct, si vous voulez, sur ce premier échange avec ce collectionneur privé qui a ensuite débouché donc, à une demande auprès du cabinet de Beiser qui est donc expert en dessin ancien. On a fait appel aussi à Anne Sutherland-Harris qui est la spécialiste du Bernin. Elle a eu une bonne impression dès le début et elle nous a rapidement donné son son accord effectivement pour l'attribution au Bernin. Notre dessin a été très proche des académies qui sont conservées au musée des Offices à Florence, pour la plupart, et ainsi qu'une autre académie qui est conservée donc au Taylor Museum et qui provient de la collection de Christine de Suède. Et donc nous on a la huitième qui vient rajouter à cette attribution. Cette émotion particulière lorsque l'on fait face à une œuvre pareille, avant tout une émotion et une sensibilité avant d'une attribution définitive.
Alors vous avez été donc au marteau pour la vente de ce magnifique dessin du Bernin. Ça nous paraît une estimation relativement basse par rapport au prix qu'il a atteint.
Alors c'était une estimation basse effectivement, 30 à 50 000 euros. On avait très peu de visibilité sur des corpus ou sur des dessins académiques du Bernin vendus avant. Le dernier record se plaçait à 236 000 euros pour une académie beaucoup plus petite au niveau du format. Bien sûr, on était certain que ça attirait la convoitise de beaucoup de collectionneurs privés, parce que ce sont des académies extrêmement rares. Donc on comptait bien sur cette estimation d'appel pour galvaniser nos envies d'acheteurs et pour atteindre ce prix et cette envolée des enchères que l'on n'attendait pas en tout cas aussi forte, parce qu'1 550 000 euros au prix marteau, presque 2 millions frais compris, c'est quelque chose d'absolument incroyable pour un dessin. C'est pour l'instant en tout cas le record dans les dessins anciens pour l'année 2021, donc c'est vrai que c'est un grand frisson, un très très grand frisson. Je commence les enchères à 30 000 euros, une première enchère au téléphone à 100 000 euros, donc là c'est quand même un très gros bond d'enchères. Voilà, on fait des enchères de 10 000 en 10 000, 110 000, 120 000, on passe la barre des 300 000, des 500 000. Là c'est vrai qu'effectivement quand on est au marteau et qu'on dépasse cette barre-là, on se dit déjà ça prend une autre dimension. Un enchérisseur en live qui vient tout à coup se mettre aussi dans la course, donc on arrive à 700 000, 900 000 euros, on dépasse le million. 1 100 000, les enchères commencent un petit peu à ralentir, on n'a plus que deux enchérisseurs à ce stade-là, une personne au téléphone et une personne sur le live, qui donc continue en tête-à-tête de 1 100 000 euros jusqu'à 1 550 000 euros, où c'est finalement le téléphone qui remporte.
Donc là, vous frappez, vous adjugez.
Adjugez à 1 550 000 euros. Voilà, et donc un acheteur américain au but du téléphone et qui repart ravi de cet achat. Et ce corps voilà, masculin positionné tout en force sur un fond presque brossé à la hâte avec des rochers, des végétaux. Mais c'est vrai qu'on se demande comment cet homme aussi musculeux peut tenir dans une feuille de papier voilà, au cadre presque trop serré pour lui. Un grand trésor. Un très grand trésor.
C'est votre plus belle vente ?
Oui. Depuis 3 ans, effectivement, que je tape le marteau ici à Compiègne, c'était ma plus belle vente, oui. Oui, 1 550 000, on n'est pas près de l'oublier.
Un Picasso, un Bernin, on aurait aussi pu citer un Fragonard retrouvé dans un appartement de la Marne et qui sera vendu aux enchères à Épernay en juin. Mais ce qui a aussi attiré notre attention, c'est la vague des ventes de mode. Elles fleurissent ce printemps. Le 7 juin, Christian Dior et John Galliano, 15 ans de création, chez Cornette de Saint-Cyr. Début mai, Kenzo, chez Art Curial, alors que le grand couturier est décédé du Covid-19 à l'âge de 81 ans en octobre dernier. Le 31 mai, place à Paco Rabanne, chez Millon. Mais c'est une autre figure de la mode qu'on a rencontrée, une icône féminine, évidemment. 368 lots proposés à la vente en ligne, et 273 pour la vente au marteau du 6 mai prochain, toujours chez Millon. Et à des prix tout à fait raisonnables, en tout cas pour les estimations, une fourchette en majorité entre 100 et 500 euros. Madame Chantal Thomas disperse 40 ans de création, pour la première fois aux enchères, dans une volonté de montrer et de transmettre sa mode qui a incarné la libération sexuelle et l'émancipation des femmes.
J'étais inspirée par les vieux corsets, mais sauf que je les ai retravaillés dans des matières contemporaines. Ça, j'ai fait beaucoup de bustiers. Ça, c'est du velours. Les chapeaux, je m'amusais beaucoup avec les chapeaux, j'adorais ça. Et puis ça, c'était un... Après, il y avait des thèmes, chaque défilé avait un thème. Ça, c'était un thème africain. Donc j'avais de la plume de toutes les couleurs, c'était très folklore. Du daim. Il y a des choses dont je suis plus fière que d'autres. Par exemple, je trouve ce manteau-là, il est magnifique. Le manteau, il est court devant, long derrière et doublé de volants à l'extérieur. Dans ma mode, c'était quand même un côté masculin-féminin.
Donc ça, c'était en fait très strict, mais très strict, froufroutant à l'intérieur. Ce genre de modèles, ce sont des pièces uniques. Voilà. Il y en a plusieurs, ça aussi, c'est une pièce unique. Tout ce qui est un peu extravagant, une petite veste en plume noire, par exemple, pour le soir, roulée en boule comme ça, ça s'abîme absolument pas. Et elles sont toujours vivantes, elles ont 30, 40 ans, elles sont dans mon armoire.
Et alors, pourquoi avoir décidé de réaliser une vente aux enchères, hein?
Bah parce que j'ai tout ça, si vous voulez, j'ai gardé énormément de choses. Ça fait 7-8 ans que je vais trier tout ça, que je regarde tout ça et que je me dis... Il faut que ça vive. Les vêtements, ils ont un intérêt parce qu'ils marquent une époque. Tout ce que j'ai pu faire entre les années 70 et 90 à peu près. Donc ça, je l'avais fait pour Isabelle, celui-là, le manteau. Quand elle a eu son César.
Isabelle Adjani.
Il y a des sacs, il y a des ceintures, il y a quelques paires de chaussures aussi, très jolies.
Vous allez assister à la vente?
Non.
Non. Pourquoi?
Parce que... D'abord, je trouve que c'est pas bien que je sois là. Et qu'en plus, ça va un peu me faire triste quelque part de m'en séparer. Je suis contente de montrer à la jeune génération ce que j'ai fait. La génération des femmes qui s'habillent en Chantal Thomas, maintenant, elles ont, en vêtements, elles ont 60 ans. Donc, bon.
Philomène Wolf, Catherine Yesh, Chantal Thomas. Trois femmes, trois générations. Et comme fil rouge, trois histoires inspirantes pour la jeune génération. Écoutons-les nous parler avec émotion de leur parcours, émaillé de joie et d'obstacles surmontés.
J'avais 18 ans, mes parents m'ont émancipée pour que je monte une société. Parce que la majorité était à 21 ans à l'époque. Oui, j'ai eu envie de m'habiller différemment des autres. Voilà. J'ai démarré assez facilement quand même, partant de rien, en vendant trois robes chez Dorothée Biss. Oui. J'ai eu tout de suite la presse avec moi. C'était le début des magazines genre 20 ans, genre d'une mode jeune. Mes copines journalistes, ça a démarré facilement finalement. Alors, le premier défilé, et je l'ai fait dans un café dans le 6e.
J'ai toujours été dans le métier. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mes parents étaient antiquaires. Je suivais mon père partout dans les maisons de vente dans le sud de la France. J'ai commencé à travailler chez Jacques Tajan, j'avais 20 ans. Donc j'ai passé mon examen quelques temps après parce que travailler avec Jacques Tajan, c'était assez prenant. Je l'ai passé en 2007, donc il y a pratiquement 20 ans après avoir commencé.
Pourquoi cette envie de devenir commissaire-priseur finalement? Parce qu'avant, vous étiez plus... vous exerciez quelle fonction?
Parce que pendant 15 ans où j'étais très proche de Jacques Tajan, je ne pouvais difficilement m'absenter pour travailler comme il le fallait pour l'examen. Et j'avais un poste très important, je m'occupais de toutes les ventes de prestige. J'avais pas vraiment le temps. Jacques Tajan trouvait que c'était pas important que je devienne commissaire-priseur parce que je travaillais avec lui et j'avais pas de temps à perdre à faire un peu...
Oui, il voulait vous garder.
Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu... J'ai mis du temps à le passer et je l'ai passé donc 20 ans après parce que j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai travaillé avec un architecte, j'ai travaillé avec des collectionneurs. Je pense que j'ai travaillé avec les trois quarts des acteurs du marché de l'art et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. En fait, il manquait un aboutissement pour conclure parce que j'ai encore quelques années.
Pour évoluer. En fait.
Pour évoluer. Et c'était... Pour moi, c'était une nouvelle porte qui s'ouvrait, mais je ne pouvais pas la continuer sans avoir cet examen. Donc, ça a été un peu une remise en question, mais qui a été passionnante à un moment. Et je trouve que finalement, le faire 20 ans après avoir commencé à travailler dans le métier, ça nous ouvre, et ça nous ouvre beaucoup de portes et ça nous ouvre aussi l'esprit sur beaucoup de choses.
Je suis commissaire-priseur depuis 2011, donc ça fait bientôt 10 ans. Et j'ai passé mon concours de commissaire-priseur en étant salariée à Compiègne, avant de reprendre l'étude avec Maître Lecointe de Beaulieu en avril 2018.
Vous avez toujours voulu être commissaire-priseur?
Ça fait très longtemps que je voulais être commissaire-priseur, effectivement. J'ai eu la chance, quand j'étais en 5e, d'avoir une professeure d'histoire géographie qui était absolument incroyable. Pendant cette année-là, j'ai découvert le monde de l'Égypte. Ça a été mon premier abord avec le monde de l'art, un vrai coup de foudre. Donc j'ai voulu devenir égyptologue très très rapidement. Et je découvre par hasard, au cours d'une actualité un soir à la maison, un record d'enchères, similaire à ce que nous faisons aujourd'hui, mais qui passe en actualité comme ça. Et je vois un homme au marteau et je dis c'est ce métier-là que je veux faire. Ça c'est moi.
Une vraie révélation.
Exactement. Vraiment une révélation et... comme une vocation qui, d'un seul coup, ça s'imposait à moi. Je rentre à l'école du Louvre et je fais 5 ans à l'école du Louvre. Je fais le deuxième cycle en spécialité marché de l'art. Et à la fin de ce master en marché de l'art, il faut effectivement que je fasse une licence en droit, puisque pour devenir commissaire-priseur, il faut avoir et en même temps la licence en histoire de l'art et la licence en droit. Donc je tente une équivalence, passerelle, puisque j'avais fait un mémoire juridique sur la réforme des ventes aux enchères qui était alors d'actualité, qui a été assez remarquée, en tout cas, sponsorisée par de nombreux universitaires du droit. Et du coup, j'ai eu une équivalence dans deux universités, une à Clermont-Ferrand, une à Saint-Étienne, et j'ai choisi Saint-Étienne.
Si Chantal Thomas se tourne vers les enchères aujourd'hui, c'est pour le spectacle d'une vente au marteau, mais aussi pour la fluidité d'une vente digitale qui se tient sur plusieurs jours et qui touche un public beaucoup plus large. C'est aussi une vision du féminisme qui s'expose, portée par l'idée d'une féminité assumée, qui fit scandale en 1999 lorsque la couturière organise un happening déshabillé et plutôt osé dans les vitrines des Galeries Lafayette. Flashback.
Il y avait des faux mannequins, évidemment, habillés avec des vêtements. Et 3 fois par jour, il y avait des vrais mannequins qui étaient dans la vitrine pendant 20 minutes. Elles vivaient en vitrine. Voilà. Ça a été, je ne vous dis pas, que je ne pouvais plus me promener dans la rue. Ça a été une aventure auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce que dans ma tête, ce n'était pas du tout ça. J'ai toujours considéré que la femme choisissait et décidait. Et qu'elle décidait de séduire, c'est pour ça que j'ai fait de la lingerie jolie, parce qu'elle avait envie de décider de séduire, ou de se même séduire à elle-même.
Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ce serait encore moins possible de faire ça?
Ça serait encore moins possible aujourd'hui, c'est encore pire. Oui, c'est vrai.
Vous avez quel regard là-dessus, justement? Vous suivez un peu l'actualité?
Oui,
des...
Oui, mais j'ai du mal, parce que c'est vrai que moi, ma génération, c'était Freedom, à poil sur la plage, tous à poil sur la plage. Enfin, la jeunesse des années... 70-80, était excessivement libre. Libération. Un mouvement de libération, quoi. Mmh. Et c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus coincé. Hein. Il y a 2-3 ans, je ne sais plus, j'étais avec ma petite fille sur la plage, et elle me dit oh, « Mamie, regarde, il y a une dame sans soutien-gorge. » Et effectivement, j'ai réalisé que moi, à Saint-Tropez, quand j'avais entre 20 et 30 ans, il n'y en avait pas une seule qui avait un soutien-gorge, carrément. On s'en foutait complètement. Enfin, ça n'était pas choquant.
Et vous avez réinventé le soutien-gorge, quand même.
Ah ben, j'ai réinventé le soutien-gorge parce que, comme je ne portais pas de soutien-gorge, quand j'ai commencé, un peu plus tard, à me dire, à un moment, je pense que ça a dû être peut-être quand j'étais enceinte, je me suis dit, bon, il faut quand même que je porte des soutiens-gorge. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien de bien, que tout était moche. Et classique. Et j'ai commencé à ce moment-là à faire de la lingerie.
Vous vous considérez comme une féministe?
Oui, je me considère comme une féministe, oui. Oui, et quand j'ai eu cette histoire avec les Galeries Lafayette, par exemple, j'étais extrêmement choquée que les féministes me sautent dessus. Parce que j'avais pas l'impression une seconde de faire quelque chose contre les femmes. Vous voyez, de traiter les femmes comme des objets. Elles ont été méchantes.
Les enchères exceptionnelles font toujours rêver. Et lorsque ce sont des femmes qui tiennent le marteau, sous la verrière du Grand Palais, lors du salon annuel Rétromobile, devant un parterre d'hommes pour Catherine Yesh, ou dans le frisson d'anciens trésors pour Philomène Wolf, le rêve est plus fort car on sait que le chemin n'est pas exempt de difficultés. C'est aussi une histoire de combat, de légitimité, de compétence. Une histoire de construction sur le long terme et non uniquement dans l'éclair d'un record. C'est aussi pourquoi Chantal Thomas a ce désir aujourd'hui de patrimonialiser ses créations à travers un site internet qu'elle lance ce mois-ci, pour dire aussi qui elle est et ce qu'elle représente. Il s'agit tout simplement de la manière dont une femme peut gagner sa place.
Pour moi, travailler dans une maison comme Bonhomme, c'est vraiment une grande joie. Depuis que j'ai commencé, ils me font entièrement confiance. Les ventes qu'on faisait sur Paris étaient uniquement des ventes de voitures. De vente d'automobiles de collection.
Donc un domaine d'hommes. Oui.
Pour pas dire 95%, mais...
Ça s'est bien passé.
Donc ça a été... Les premières ventes ont été un peu difficiles, dans le sens où c'est pas ma spécialité.
Et le fait d'être une femme?
Le fait d'être une femme... ils n'étaient pas plus complaisants ou moins complaisants ou plus... Ce qui a fait la différence, c'est quand le fait de travailler ensemble, où tous les problèmes légaux, tous les problèmes d'organisation, tout se passait sans aucun problème. C'est vraiment un milieu d'hommes et il faut s'imposer. Et il faut s'imposer, mais pas d'une manière brutale. Et puis j'avais envie d'apprendre, parce que finalement, je me suis passionnée pour les bijoux, mais les automobiles de collection, c'est aussi un domaine incroyable.
Votre record d'enchères, Catherine?
Donc forcément, c'est un peu dans les automobiles.
Oui, justement.
Donc on a vendu une Bugatti à 7 millions. C'était un moment un peu émouvant, parce qu'il faut dire automobile. Hein. C'est, au début, je parlais de voiture et ce n'est pas le terme adéquat.
On le saura.
Pour les automobiles de collection. Voilà, on a eu la chance de faire cette vente au Grand Palais. On refera la vente l'année prochaine dans le Grand Palais éphémère.
Faire une vente au Grand Palais, c'est quand même, c'est presque la plus belle vente, la plus belle salle des ventes qu'on puisse avoir, non ?
Une effervescence folle, mais on est vraiment au milieu de cette nef, avec ses couleurs qui changent au fur et à mesure de la journée. Enfin, oui, c'est un moment magique.
Bien sûr, après on espère effectivement qu'avec cette image-là d'une femme qui tire le marteau et qui est capable d'atteindre des records de vente, que ça bénéficie à des jeunes femmes qui aujourd'hui sont en plein questionnement sur peut-être l'avenir de cette profession, ou en tout cas sur leur place au sein de cette profession. Il faut surtout pas hésiter, quand l'envie est là, quand la passion est là, et quand cette vocation vous tient, vous pouvez faire des miracles. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus de femmes et de jeunes femmes, notamment, qui créent des structures et qui réussissent. Ça, je pense que c'est la plus belle des récompenses aujourd'hui, effectivement, en tant que femme, de réussir à effectuer ce métier et à le faire de la meilleure manière qui soit.
Bon, il faut que les femmes parlent.
Il faut que les femmes parlent, c'est évident, oui. Oui, c'est très important que les femmes...
Encore aujourd'hui, je veux dire en 2021.
C'est vrai que moi, je suis d'une génération où on a pensé que que tout avait changé, et que c'était plus facile et que tout avait changé. Mais je pense qu'effectivement, tout n'avait pas changé pour tout le monde. Et c'est désolant. Oui, mettre en valeur le corps de la femme, en fait, la mettre en valeur. Et lui donner une personnalité.
Le fait de parler des femmes dans le métier du marché de l'art, c'est quelque chose de très novateur, de très moderne, et effectivement, il faut en parler. Il faut en parler.
Un monde d'hommes, pendant des années, comme beaucoup le monde du travail, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de commissaires-priseurs femmes, il y a beaucoup de spécialistes femmes. Je pense qu'il y a. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez bien réparti, en fait. C'est important de montrer que des femmes sont à tous les niveaux, parce que c'est quand même le cas. Et ça montre aux jeunes femmes qui ont un peu d'ambition, parfois qui rêvent de devenir galeriste, commissaire-priseur, que c'est possible. Et bon, facile, non, parce qu'on est quand même dans un métier de niche et que c'est pas facile d'arriver à un certain niveau. Il faut quand même se battre. Être généraliste aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il faut vraiment être très bonne dans un domaine. On ne pourra pas s'affirmer si on n'a pas des compétences très fortes. Ce qui est effectivement parfois plus facile pour des hommes d'arriver sans avoir ce degré de compétences.
Diriez que vous avez eu quelques obstacles quand même, justement, liés au fait d'être une femme ?
Pour être honnête, il se passe pas une semaine sans que, lorsque j'arrive sur un inventaire, on soit peut-être étonné de voir une femme plutôt qu'un homme. Ça, on a encore régulièrement ce type de réflexion.
Non, j'étais pas une femme d'affaires. Je pense que si j'avais été une femme d'affaires, j'aurais pas été aussi créative. Parce que justement, à l'époque, je faisais une robe qui marchait très bien, par exemple, et mon mari avec qui je travaillais à l'époque me disait « Tu vas refaire la même l'année prochaine ». Je dis « C'est hors de question. Je ne vais jamais refaire la même, on va faire autre chose. » Oui, je pensais pas, je pensais vraiment création. Originalité, création. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas encore le lycra, il n'y avait pas encore la matière élastique. Donc les culottes, elles étaient grandes comme ça. C'était moche. Eh oui.
Nous, on a de la chance, là, du coup.
Ah là, on a
grâce
de la
à
chance.
Vous. Voilà, ça, on a ouais. des.
Ah, j'ai
des
bien fait évoluer les choses en lingerie, je dois dire.
Bon, merci beaucoup pour ça, Chantal.
On parlait tout à l'heure de l'examen. Je ne l'ai pas eu du premier coup. Et j'avais mes filles qui me regardaient travailler tous les soirs jusqu'à minuit. Je travaillais vraiment beaucoup. Je l'ai raté la première fois. Elles étaient, mais comment c'est possible, maman, tu travailles comme ça? Ça veut dire que... J'ai dit non, ça peut arriver. Bon, après, c'était vraiment sur du judiciaire assez précis sur lequel j'avais raté. Mais de montrer aussi, même donc, à mes enfants, qu'on peut arriver à 20 ans après avoir commencé, à retravailler à fond et à apprendre et à développer son réseau. Donc, c'est ce qui est important. Ouais, les deux choses, connaissance et réseau, et passion. Donc, trois.
Alors, est-ce que votre rêve s'est accompli? Vous avez encore des rêves, là? Parce que le Bernin, c'était un peu un rêve, mais il y en a peut-être d'autres.
Je pense que, en fait, chaque vente est unique et chaque record tiendra sa part d'expérience qui aussi l'accompagne. Et c'est à sans cesse renouvelé. Donc, effectivement, c'est un rêve qui se réalise, mais je pense qu'il y en aura encore plein d'autres.
Non, j'encourage un peu toutes les jeunes filles, les jeunes femmes à se lancer si elles sont passionnées. Il faut être passionné. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné, si on n'a pas envie de faire rêver et de rêver soi-même. Mais surtout, ne jamais hésiter d'y aller.
Vous venez d'écouter le 5e épisode d'Elfons le marché, en partenariat avec les Soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Le mois prochain, le 6e épisode s'intéressera à l'entrepreneuriat au féminin dans le secteur. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio, le 3e mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcast ou encore SoundCloud. Elles font le marché épisode 6 et donc à retrouver le mercredi 19 mai à 19h sur Art District Radio et en podcast.